L'horloge au fond de la salle indique 46, et donc je pense que nous allons pouvoir reprendre la session de la matinée. Et nous aurons donc pour cette deuxième partie deux communications. Je vous en prie. Donc la première sera de Madame Danielle Elisséeff. Alors vous la connaissez sans doute par son récent livre il y a quelques années sur le dernier empereur chinois, mais cette fois-ci, ça n'est pas d'un empereur qu'elle va nous parler, puisque le thème, c'est sur les femmes au pouvoir, et donc sa communication porte le titre de « Femmes de pouvoir en Chine ancienne », et je suis très heureux de vous laisser la parole.
Je vous remercie infiniment. Donc, je vous emmène à l'autre bout de l'Eurasie, et en évoquant cette reine qui a repris, qui était complètement ignorée, qui est apparue tout à fait par hasard, comme toujours, lorsqu'il s'agit d'une découverte archéologique en 1976, et qui maintenant, vous le voyez à travers cette statue et cette image tirée d'une bande dessinée, et qui est devenue l'une des figures majeures de la Chine contemporaine et évocatrice de la place des femmes. Donc cette découverte, elle a été faite dans cette région, vous voyez, j'ai mis un gros point rouge, donc dans la province du Henan, qui est l'un des lieux fondamentaux de la naissance de la royauté en Chine ancienne, et laquelle royauté s'est organisée très tardivement par rapport à tout ce que j'ai entendu avec admiration ce matin. Donc nous sommes là au milieu du deuxième millénaire avant notre ère, et cette reine Fuha elle-même vit vers, alors on lui a attribué des dates, mais elles ne sont de mon point de vue pas tout à fait crédibles, elle vit vers 1250 avant notre ère. Et donc vous voyez, 13e siècle avant notre ère, c'est un moment extrêmement important, puisque c'est à ce moment-là que l'écriture apparaît en Chine, là aussi très tardivement par rapport au Moyen-Orient, et ce qui trouble beaucoup les Chinois, puisque à partir du moment où l'écriture apparaît, l'écriture devient l'un des fondamentaux, et même le fondamental essentiel de la société. La Chine, comme vous le savez, toute la culture chinoise repose sur l'écrit, et le lien entre les hommes et le lien entre les hommes et leurs ancêtres et les divinités éventuelles passe toujours par l'écrit. Alors, je reviens à notre reine qui s'appelle Fuha. Et tout commence en 1976 par une découverte fortuite, et qui est celle d'une tombe inviolée, d'une tombe donc de l'âge du bronze, du deuxième millénaire avant notre ère, une tombe inviolée, ce qui est extrêmement rare, parce qu'en plus de 2000 ans, les pilleurs de tombes ont eu le temps de faire leur travail. Et donc, cette tombe inviolée, au premier abord, voilà à quoi elle ressemble. Et moi, je vous ai écrit que c'est la reine Fuha, etc. Et s'il n'y avait pas l'écriture, c'est pourquoi j'ai commencé à vous parler de l'écriture, s'il n'y avait pas eu quelques inscriptions, personne n'aurait peut-être pensé à une femme. Sauf, on peut imaginer que la collection d'éléments, de petits objets de jade que vous voyez là, peut-être aurait-elle pu être attribuée à un personnage féminin. Mais encore, ce n'est pas certain. Et parce que tout dans cette tombe est conforme à ce que l'on trouve dans la sépulture d'un personnage important, d'un personnage donc, qui a accès au métal, qui domine les ressources en métal, donc l'aristocratie guerrière de l'époque, qui est... Et la dynastie des Shang, donc qui règne en gros vers 1500, à partir de 1500 avant notre ère, peut-être un peu plus tôt, et qui est chassée vers 1050 avant notre ère par la dynastie royale suivante, qui s'appelle la dynastie des Zhou, où l'on voit naître alors vraiment toute l'organisation de la Chine plus récente. Donc vous voyez dans cette tombe, il s'agit d'une fosse qui était remplie. Qui a été creusée, bien sûr, qui a été remplie de terre une fois qu'on y a déposé à la fois le corps du défunt et les objets qui l'accompagnent, ces objets qui l'accompagnent étant eux-mêmes parfaitement conformes au protocole officiel et qui tournent autour de l'évocation d'un banquet. Et vous savez qu'en Chine, au moins autant qu'ailleurs, toutes les négociations et toutes les relations sociales se font dans le cadre d'un banquet. Donc on banquette aussi avec ses ancêtres ou avec les divinités. Mais sans doute savez-vous également que les divinités ont tendance à s'effacer en Chine derrière la présence de nos ancêtres, des gens qui nous ont précédés. Donc il y a tout ce qu'il faut à la fois pour préparer et les différents aliments, donc les soupes, les ragoûts et les céréales, surtout les céréales, qui ont un sens symbolique très fort, et puis les boissons fermentées. Alors on dit parfois alcool, et certains spécialistes de la nourriture disent que ce sont plutôt des bières, je ne saurais trancher, en tout cas c'est quelque chose qui vous donne une certaine ivresse et qui permet de communiquer avec les âmes. Donc si vous voyez cela, vous ne pouvez pas savoir que vous êtes dans la tombe d'une femme, laquelle son corps a disparu, il était vraisemblablement là. Ici, ce sont donc différents dépôts et les fameux jades que vous voyez ici. Autour, vous apercevez également des victimes sacrificielles. Là encore, c'est tout à fait conforme à ce que l'on sait de l'époque des Shang. Il y avait toujours des accompagnateurs pour suivre le défunt dans la mort à différents niveaux. Donc dans le tumulus qui recouvrait à l'origine ces terres, il y avait quelques serviteurs ou des ennemis. Dans la tombe, il y avait bien sûr aussi, dans la tombe de roi, il y avait différents, visiblement des prisonniers que l'on avait exécutés. Mais on pouvait trouver également des personnages accompagnés de tout un matériel archéologique qui signe leur fonction, ces personnages étant des très proches du souverain ou du défunt de grande qualité. Donc ça pouvait être des amis, sa famille, son épouse ou ses épouses secondaires, et dans le cadre du roi, des ministres, et d'ailleurs se maintiennent. Donc le premier grand historien chinois qui écrit au IIe siècle avant notre ère disent que c'est cette pratique funéraire qui a signé la perdition des rois Shang, parce que à force d'enterrer les ministres et les gens qui savaient gérer le pays avec le roi qui venait de mourir, on se retrouvait quand même dans des situations compliquées. Donc Fu Hao, elle a tout cela, et elle a autour d'elle, alors j'ai noté le nombre exact, elle a 16 victimes, dont deux enfants, dont les téléfilms chinois, qui sont extrêmement nombreux, qui lui sont consacrés aujourd'hui, disent que ce sont ses enfants. En fait, personne n'en sait rien. Il y a deux enfants, et puis 16, c'est ça, en tout 16 squelettes humains, donc deux enfants plus 14 adultes. Qui il en a trois ou quatre dans le à l'extérieur du tumulus, enfin c'était dans le tumulus, donc à l'extérieur de la tombe, les autres à l'intérieur de la tombe, ainsi que sous son corps, il y avait, comme toujours aussi à l'époque à cette époque et dans les belles tombes, il y avait un chien qui avait un rôle psychopompe. C'est le chien créature entre la nature et culture qui emmène l'âme dans les dédales de l'au-delà. Alors, comment sait-on que c'est une femme? Eh bien, parce que on le sait, parce qu'il y a notamment cette inscription sur ce bronze dont vous voyez les dimensions et le poids. Celui-ci est relativement petit. Il y a aussi un autre, il y en a d'autres, dont un très gros qui mesure plus d'un mètre de haut et qui pèse 800 kilos. Comme disent les téléfilms chinois, encore une fois, Fu Hao avait dans sa tombe un bronze qui était aussi lourd qu'une voiture. Bon, bonne comparaison pour faire comprendre aujourd'hui. Et donc, à l'intérieur de ces bronzes, il commence à y avoir à cette époque, donc ça c'est très intéressant, on la voit surgir en même temps que l'origine de l'écriture, on voit surgir son inscription, sa titulature funéraire qui est classique en Chine jusqu'à la fin de l'Empire. Vous avez différents noms de votre vivant, et quand vous mourrez, on vous donne après un nom d'ancêtre, un nom de défunt. Et l'intérêt, alors, si il n'y avait eu que cette inscription toute seule. Là encore, on n'aurait pas pu savoir qu'il s'agissait d'une femme. Ce qui a permis de le savoir, c'est que ce titre funéraire apparaît, et puis son nom de Fourau, que vous avez vu un peu plus haut, il apparaît plus de 300 fois dans des inscriptions oraculaires, c'est-à-dire, et, enfin, certains ici ont dû suivre les quantités de cours de Han Cheng et, ou bien les cours d'Olivier Venture à l'école pratique des hautes études sur les inscriptions oraculaires. Donc vous savez que ce sont des inscriptions que l'on traçait sur des omoplates de grands animaux ou bien sur des carapaces de tortues après avoir touché l'os avec un tison incandescent, ce qui provoque des craquelures. Et ces craquelures étaient supposées être les réponses des ancêtres aux questions qu'on leur posait. Les questions étant du genre « Ai-je raison d'aller combattre mes ennemis à tel moment ?» ou « Puis-je aller à la chasse pour en avoir tel ou tel résultat ?» ou « Ma femme est enceinte ?» l'enfant à naître est-il un garçon ? Donc l'ancêtre répond généralement par oui ou par non. Parfois il ne répond pas et on voit les inscriptions qui s'allongent pour faire une scène à l'ancêtre en disant pourquoi tu ne réponds pas ? Et donc c'est parce qu'on a trouvé ce titre et la mention de Fourau dans des inscriptions oraculaires que l'on sait que c'est une femme, puisque ces inscriptions posent des questions très simples, du type « Fourau, la femme du roi, qui est générale, peut-elle aller combattre les barbares ?» puisque c'était son rôle principal. Et donc l'oracle répondait oui ou non, mais apparemment il a souvent répondu oui. Et donc, ce qui est mirobolant et vertigineux, c'est que ce titre apparaît, comme vous voyez ici, 330 fois dans les inscriptions oraculaires, mentionnant son caractère de femme, son caractère de mère, donc ça veut dire qu'elle avait des enfants, et son caractère d'épouse d'un roi très célèbre, qui est le roi Wu Ding, qui a régné très officiellement, d'après les spécialistes du compute calendérique, de 1324 à 1266, et avant notre ère. Et ce qui est très perturbant, c'est qu'elle n'apparaît plus jamais dans aucun texte. Il y a un grand décalage, si vous voulez, là on est en gros vers 1200 avant notre ère. Les premiers textes, l'écriture devient un support de pensée, et de traduction de la pensée à l'époque de Confucius, c'est-à-dire vers 500 avant notre ère. Et les textes historiques commencent un peu plus tard, et les histoires dynastiques, la première, c'est celle qui est rédigée par Sima Qian au milieu du deuxième siècle avant notre ère. Donc, voyez, nous sommes tout à fait au début, et cette personne disparaît en somme parce que pendant plusieurs siècles, l'écriture est confinée au mode religieux, au mode au mode de communication, et qui permet de mettre les vivants en communication avec leurs ancêtres qui sont supposés les guider dans les ennuis de la vie. Alors, ce que l'on sait à travers ces inscriptions, c'est que Fourau donc, a mené de grands combats, généralement contre ceux qui étaient considérés comme des barbares, donc tous ceux qui menaçaient l'institution et le territoire des Shang. Des rois Shang. Donc, et elle était terrible et visiblement, elle a gagné beaucoup de batailles. De ce fait, elle était très honorée puisque c'est sur elle, on a l'impression que c'est sur elle que reposait la sécurité de la société des Shang. Malgré cela, il faut quand même reconnaître, alors je reviens juste un instant pour vous rappeler où est sa tombe, cette tombe très jolie, pas très grande, hein, elle fait quelque chose comme 3 mètres sur 3, et c'est pas du tout les grandes tombes des rois Shang qui sont énormes, avec des escaliers qui permettent d'y accéder, avec des rampes sur lesquelles on faisait glisser le sarcophage, etc. Là, c'est une petite tombe toute simple, cubique, qui est très riche extrêmement riche, qui est de ce fait visiblement une tombe royale, mais qui est relativement modeste et qui, alors ça c'est très important de mon point de vue pour le statut des femmes, alors même que Forao a visiblement un rôle militaire extrêmement important, elle n'est pas enterrée là où sont les rois, elle n'est pas enterrée dans la zone où l'on place les tombes importantes, c'est-à-dire un peu à l'écart de la vie agraire, au pied des collines, dans des lieux de repos, des lieux très calmes. Elle, elle est dans la plaine, si j'ose dire, au milieu de tout le monde, et dans un espace qui n'est pas manifesté d'une façon ou d'une autre, comme un espace de cimetière et de recueillement. Donc, vous voyez le, la complexité de la question. Ceci étant, donc un mot bref sur l'importance du mobilier, justement, qui l'accompagne. Donc, elle a 468 bronzes, qui sont donc ces récipients qui servent pour le banquet cérémonial avec, avec lequel on va pouvoir communiquer avec elle. Elle a 130 armes. Donc, alors je vous passe le, la définition des différentes armes, mais 130 armes, ce qui est beaucoup. Ceci étant, le fait même qu'il y ait des armes n'est pas étonnant, puisque même à des époques beaucoup plus récentes, aux environs de notre ère, on plaçait encore des armes dans des tombes féminines qui sont à ce moment-là, dont le caractère féminin est attesté par des inscriptions. L'arme dans la Chine ancienne, c'est le symbole d'un statut, quand on est dans le cadre d'une cérémonie religieuse. Donc une femme ou la femme d'un gouverneur, elle peut parfaitement avoir des armes dans sa tombe. Ça ne veut pas dire du tout qu'elle s'en soit servie. Mais elle, visiblement, s'en est servie. Et puis, elle a quelques miroirs, des cloches. C'est important. Là aussi, l'interprétation est difficile parce que si l'on nous dit à nous la personne a 23 cloches dans sa tombe, on dit ah c'est quelqu'un qui pratiquait des rituels. Non, on n'en est pas sûr du tout. Vous savez que l'origine de la cloche, en tout cas ce que l'on en comprend en Chine ancienne, c'est une utilisation militaire. La cloche, elle sert avec le tambour. Enfin, militaire et civil. Civil, c'est, elle sert à dire le début du jour ou le début de la nuit, enfin, quand on doit ouvrir ou fermer les murailles des villes. Et puis, elle est surtout extrêmement, la cloche est extrêmement importante sur le champ de bataille. C'est elle qui permet de transmettre des ordres. Donc, elle a des cloches, ça ne veut pas dire qu'elle fait une belle musique pour parler avec les divinités. De mon point de vue, ça dirait plutôt qu'elle a commandé d'immenses armées, comme ont l'air de le suggérer les inscriptions. Et puis, elle avait, alors ça c'est intéressant, elle avait des épingles à cheveux. Alors là, on aurait pu, effectivement, même sans inscription, se demander si ce n'était pas une femme, puisqu'on a trouvé 500 épingles à cheveux en os ou en jade, une grande quantité, 6900 kori, vous savez, ces petits coquillages qui servent autant de monnaie dans les sociétés antiques que de talismans et qui étaient disposés tout autour de son corps qui, lui, a disparu. Donc, on n'a pas de squelette pour vérifier qu'elle était bien une femme. Et puis, il y a, à part quelques miroirs, il y a des jades. Et alors, voilà les jades. Ça, c'est... je les avais déjà sortis. Donc, des jades, c'est extrêmement important parce qu'on n'en connaissait pas autant. Le jade... Et on appelle jade en chinois, ce qui n'est pas du tout le jade des gemmologues d'aujourd'hui. On appelle jade toute pierre dure et veinée et qui a la propriété de résister plus ou moins au feu. Donc c'est un symbole de résistance et d'immortalité. Mais les beaux jades ne sont pas présents en Chine. On va les chercher très loin. Bon, je me dépêche, donc je ne vais pas vous parler du jade maintenant. Mais elle a vraiment une grande quantité. Elle a plusieurs centaines de jades. Et qui représente des animaux que nous serions tentés de penser exotiques, comme le tigre ou des éléphants. Mais n'oubliez pas qu'à l'époque, le climat était très différent de ce qu'il est aujourd'hui. Il faisait beaucoup plus chaud dans la vallée du fleuve jaune. Et il est à peu près attesté qu'au début du deuxième millénaire avant notre ère, donc un peu, quand même un peu avant Foura, il y avait des rhinocéros, des éléphants, et des tigres, sans parler bien sûr du tigre blanc de Sibérie qui est lui beaucoup plus au nord. Et puis surtout, c'est chez elle que l'on trouve une première représentation humaine dans la dignité. À l'époque, à l'âge du bronze, jusqu'au premier millénaire avant notre ère, l'homme n'est pratiquement jamais représenté sur les bronzes archaïques, sinon sous la forme de quelques petits personnages manifestement dans une posture tout à fait subalterne, voire d'esclaves, qui sont pliés en deux, qui portent les gamelles sur leur dos, qui sont des pieds de marmite. Et elle, Foura, elle a emporté avec elle un homme. Alors la petite pièce sur l'écran paraît très grande, en réalité elle mesure 12 cm de haut, mais un homme qui est un homme de cour, qui est très bien habillé, qui se tient extrêmement bien dans cette posture assise que l'on pratiquait au Japon, enfin que l'on pratique encore au Japon dans les cérémonies, avec son chapeau élégant et sur le flanc gauche le fourreau de ce qui doit être une épée ou une arme quelconque. Alors on s'interroge sur la provenance de ces jades, dont le style est tout à fait différent de ce qu'on trouvait en Chine du Nord à l'époque. Et c'est vraisemblablement, ce sont des objets qui venaient d'ailleurs, qui venaient de la région du Yangtze, du fleuve bleu, c'est-à-dire de la Chine les Chinois anciens disaient du Sud, qui pour nous est la Chine centrale, la Chine du fleuve bleu. Il y a donc, alors cela indique évidemment des mouvements de population, de mariage, et entre Chine du Nord, Chine du fleuve jaune et Chine du fleuve bleu. Et cela atteste aussi l'introduction de nouveaux décors qui apparaissent. Alors voilà les fameux bronzes, et avec leurs décors qui sont encore très simples, mais qui, chez Fourao, sont très parlants et font appel à une hybridation extrêmement importante, c'est-à-dire on mêle des éléments empruntés au monde des oiseaux, comme des cornes empruntées au monde des capridés. Et puis, on voit apparaître ici aussi, je vous parlais il y a un instant de ces visages de malheureux, en voici un ici, ça c'est la hache de guerre de Fourao, qui mesure à peu près 52 cm, je crois, de haut. Et de part, il y a deux tigres qui sont prêts à dévorer l'ennemi que vous voyez là. Donc là, Fibron se caractérise par un décor extrêmement parlant, jouant infiniment plus que les décors qui avaient cours jusque-là en Chine du Nord, et sur le jeu de l'hybridation. L'hybridation, c'est un thème constant, le flux, le reflux, le renversement, l'hybridation, vous savez tous, c'est le thème de la philosophie chinoise de base, de ce qu'on regroupe parfois d'une façon un peu rustique, sous le nom un peu trop global, sous le nom de taoïsme. Mais disons que ce thème-là, c'est un thème fondamental, mais il était illustré d'une façon assez abstraite sur les bronzes plus anciens. Avec Fourao, on le voit vraiment vivre à travers des hybridations de vrais animaux. Et puis, elle avait aussi des ivoires, comme cette très belle coupe à boire, qui mesure une trentaine de centimètres de haut, et qui aussi possède tout un décor que nous n'avons pas le temps de regarder, mais en cherchant bien, vous verrez ici un visage, les yeux, un sourire terrible et une barbiche. Et c'est aussi cet ivoire atteste encore une fois la présence de l'éléphant d'Asie entre fleuve jaune et fleuve bleu à l'époque. Alors maintenant, puisque l'heure tourne, je vous emmène voir notre autre dame, puisque mon choix avait été de vous parler de deux personnages archéologiquement attestés. Bien sûr, dans les textes tels que transmis par Sematienne et autres, quelques textes plus anciens, on trouve trace d'épouses, de rois ou de femmes qui ont eu un rôle dans l'Antiquité. Mais disons que on peut s'interroger sur le rôle qui leur est accordé. Je n'ose pas dire que ce sont des Jézabel, mais si, et même parfois elles sont pires. Ce sont des femmes de perdition. Si les Shang ont perdu leur royaume vers 1050 avant notre ère, c'est parce que l'épouse du roi était bête et méchante, etc. C'est toujours comme ça. Donc, je trouvais plus amusant ou intéressant de nous en tenir à deux pivots qui, à 1000 ans de distance, un millénaire tout de même, nous présentent des femmes de pouvoir. Manifestement, Fourreau avait du pouvoir. Et maintenant, c'est un autre type de personnage. Donc, vous voyez ici, c'est au Hunan, dans cette région. Donc, vous voyez, Fleuve Jaune, on était là tout à l'heure. Maintenant, on fait un peu moins de 2000 km et on arrive là. Et donc, dans la région de Changsha. Et là, c'est pareil. Et au milieu des années 70, le hasard fait que l'on tombe sur quelque chose dont on se rend compte, un tumulus, on trouve les restes. Souvent, on ne trouve pas le tumulus lui-même, mais le reste du tumulus avec quelques objets à l'intérieur. Et on se dit, il doit y avoir une tombe dessous. Et effectivement, il y a la tombe. Mais alors, une tombe extrêmement différente. Alors, cette fois-ci, qui est documentée, ne serait-ce que par des inscriptions et par la liste des objets qui ont été théoriquement déposés. Je dis théoriquement parce que souvent la liste que l'on trouve dans les tombes à cette époque-là, et nous sommes au IIe siècle avant notre ère, à l'époque des Han, j'y reviens dans un instant, et la liste des objets que l'on trouve déposés dans la tombe ne correspond pas forcément aux objets que l'on y trouve. Il y a un décalage entre la théorie littéraire ou littéral, et la réalité matérielle. Donc, l'époque est complètement changée. Nous ne sommes plus dans une époque où il y a des royaumes plus ou moins avancés dans un endroit ou dans un autre. Depuis 221 avant notre ère, la Chine a été unifiée par le premier empereur dont vous avez tous entendu parler et dont vous connaissez tous les gardiens de terre cuite. Et la Chine est administrée, centralisée. C'est vraiment un État très simplement, mais très sévèrement et strictement construit. Et le premier empire n'a pas duré longtemps, la dynastie ayant périclité. Donc, à partir de 206 avant notre ère, c'est une nouvelle dynastie qui règne, la dynastie des Han, dont vous avez tous entendu parler aussi. Et ici, nous sommes dans un site où ont été retrouvées finalement trois tombes, la tombe de la dame dont je vous parle dans un instant, et puis celle de son mari, qui était le gouverneur de la région, représentant donc l'empereur des Han, qui lui régnait dans la capitale, était dans la vallée du fleuve jaune, et la tombe de leur fils, qui a succédé à son père comme gouverneur, mais qui malheureusement est mort la même année que sa mère. Donc, elle est enterrée encore à l'ancienne, c'est ça qui est intéressant. Elle est enterrée dans ces tombes qui ne sont plus les tombes de la grande antiquité que nous venons de voir, mais les tombes qui se mettent en place à peu près à l'époque de Confucius, donc milieu du premier millénaire avant notre ère, notamment en Chine centrale. Ce sont des tombes de bois qui sont des espèces d'isbas à l'intérieur desquelles se trouvent des cloisons ou des compartiments. Et tout est très bien, très très serré et très bien fermé, hermétiquement fermé, ce qui fait que la conservation est excellente. Et c'est ainsi qu'on a pu trouver à l'intérieur de ces trois cercueils emboîtés les uns dans les autres, sept personnes parfaitement momifiées. Ce qui est rare en Chine. Il y a eu quelques tentatives de momification à son époque, justement. Elle est morte vers 168 ou 167 avant notre ère. Et ça a duré jusqu'à à peu près à l'an zéro. Puis après, on ne l'a plus pratiqué. La momification n'intéresse pas les Chinois. Ils considèrent qu'il faut traiter avec infiniment de respect et beaucoup de soin. Et en donnant des éléments pour survivre, il faut traiter ainsi le corps, mais il est évident que ce corps ne va pas rester là, et que le défunt, avec ou sans son corps, peu importe, mais il va se dissocier, les éléments de son corps vont partir vers la terre, les éléments spirituels vont aller vers le ciel, et c'est là qu'il deviendra un ancêtre. Et si on lui donne des objets d'accompagnement et de la nourriture, comme on va le voir avec cette dame, la dame de Mao Hongtui, c'est pour lui permettre de passer les quelques mois pendant lesquels il est en train de se transformer en ancêtre. Mais alors, elle, compte tenu, j'ai fait un montage absolument horrible, mais ça vous permet de comprendre, enfin, voir une femme de l'Antiquité chinoise et qui est décédée vers 50 ans des suites de son trop grand amour, je crois, de la bonne chair. Et la bonne chair étant en Chine, vous le savez aussi, le marqueur et le moyen d'accéder à l'immortalité, à nourrir la vie, Yang Zheng, c'est le point essentiel de la philosophie chinoise. Alors, elle était habillée de très magnifiques vêtements de soie brodée, dont vous voyez ici un fragment, qui était très bien conservé pour les mêmes raisons. Et puis surtout, et alors c'est là où le personnage est intéressant, parce qu'il y avait sur son cercueil intérieur, donc celui dans lequel se trouvait véritablement le corps, il y avait, alors c'est difficile à représenter en photographie, mais il y avait cette bannière qui mesure 2 mètres de haut sur 90 cm de large en haut, dans la partie la plus large, et qui est, et on en connaît très très peu dans au cours des 30 dernières années, on en a trouvé seulement 3 ou 4 en Chine de cette nature. Et celle-ci est de loin la plus belle, et elle est dans la tombe d'une femme, donc cela quand même peut être notifié. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on y voit tout le parcours que l'on doit suivre au moment de la mort. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, d'abord, c'est une représentation de l'univers. Alors, matériellement, ce sont des pièces de soie qui ont été teintées au vermillon de cinabre et sur lesquelles on a peint à l'ocre brun et à l'indigo. Alors, ça se voit plus ou moins aujourd'hui, il faut une lumière rasante. Au jaune de Gomgut, c'est une résine. Au blanc d'huître, alors là, le blanc d'huître, vous le voyez bien. Et à l'encre noire, vous la voyez bien aussi. Et c'est une représentation à la fois de la terre et du ciel, donc de tout l'univers. Donc on commence, comme dans toute lecture de documents chinois traditionnels, je ne dis pas aujourd'hui, on commence par en bas et on monte, on avance, on ne descend pas, on monte toujours dans un document. Donc là, c'est le monde des eaux, le monde sous-marin, avec deux sortes de, comme des esturgeons, deux énormes poissons. Ici, vous apercevez mieux là, c'est le lieu, c'est la représentation des funérailles de la défunte, puisque ici, on voit son sarcophage, dont le décor peint évoque assez précisément le décor qu'on a retrouvé sur le vrai sarcophage. Et puis, de part et d'autre, des individus qui sont vraisemblablement les membres de sa famille. Au-dessus, une immense pièce de jade qui est les pièces de jade, les triangles de jade servaient dans les cérémonies anciennes à faire venir les esprits. C'est une musique, Confucius en parle beaucoup, c'est la musique divine, si on veut, qui fait le lien entre les gens de la terre et ceux qui sont au-dessus. Et puis vous avez des sortes de soieries qui vous emmènent ailleurs, ainsi que 2 dragons. Donc un dragon rouge qui est un dragon masculin, et puis un dragon blanc, le blanc c'est la couleur des femmes, qui est le dragon féminin. Et ce dragon yin et dragon yang, donc féminin masculin, se retrouvent au cœur d'un disque, qui est un disque de jade, enfin évoquant sans doute ce qu'on trouve dans les tombes, c'est-à-dire les disques de jade percés d'un trou central qui représente le ciel. Ça c'est documenté à travers toute l'histoire chinoise. Donc, et voilà, on monte ainsi. Et là, qui retrouve-t-on ? Eh bien, on retrouve la défunte, la voilà, sur une espèce de plateau que tiennent des créatures fabuleuses, ressemblant plus ou moins à des tigres. Et elle avance avec 3 suivantes. Et devant elle viennent 2 personnages, visiblement subalternes, qui lui présentent quelque chose sur un plateau. Et donc, rassurez-vous, je vais bientôt finir. Et là, elle arrive. Elle va arriver, elle va pouvoir monter, ou alors c'est là où se passe le mystère et où il n'y a pas d'explication. Est-ce qu'elle monte elle-même ou est-ce que c'est son âme qui monte ? Elle va monter vers le ciel qui est soutenu par une créature étrange qui est à mi-oiseau, mi-chauve-souris. Et là, elle va retrouver alors la cloche qui ici a un sens qui évoque la musique céleste, évidemment, la musique spirituelle. Elle retrouve toujours des dragons, l'oiseau noir qui est dans le soleil, et le crapaud et le lapin broyant la drogue d'immortalité dans la lune, c'est la lune qui est normalement le séjour des femmes, et puis ici le guerrier noir qui est dans la mythologie chinoise ancienne et représente la protection contre toutes les mauvaises influences, les vents terribles qui viennent de Sibérie, etc., lui aussi entouré d'un dragon. Alors ce document est absolument unique et il est donc présenté et dans la tombe d'une femme. Alors, je suis déjà trop tard, donc je passe très vite. Je voulais rappeler que, et je vous ai parlé il y a un instant, de nourrir la vie. Elle part avec toute une série de plats, non seulement un service de table en laque, en bois laqué comme celui-ci, mais elle a des boîtes, toujours en bois laqué, dans lesquelles sont préparées toutes sortes de mets qu'elle va pouvoir consommer. Et pour juste terminer et quitter le monde de l'archéologie, je vous ramène quand même vers les textes qui parlent des femmes. Les premiers textes, on n'a que deux textes anciens, un peu plus de 2000 ans, qui parlent des femmes. Donc l'un, comme je vous le voyez, qui est rédigé vers 18 avant notre ère, donc juste au tournant de notre ère, qui est écrit par le rédacteur. C'est un spécialiste des biographies. Alors, il fait des biographies de toutes sortes de personnages, des vivants, des morts et des divinités. Et là, il a eu l'idée d'écrire des biographies féminines, qui sont finalement tout à fait positives. Enfin, il donne une assez bonne idée des femmes. Et puis, il leur donne notamment cette qualité extraordinaire, qui est que, heureusement que les femmes sont là, ce sont elles qui ramènent les hommes à la raison. Alors, quand on lit ça, on est très content, mais après vient la conclusion. Oui, mais tout de même, il ne faudrait pas que les femmes se mêlent de ce qui est trop au-delà de la maison. Donc, premier bémol. Et le deuxième, il vient un peu plus tard, donc dans la seconde moitié du premier siècle de notre ère, donc à l'époque des reines postérieures. Et c'est un texte, donc le Nuttier, sur les instructions données aux femmes, et écrite par Panjau, qui est une personne très intéressante. C'est elle-même une femme qui appartient à une famille d'historiens, d'astrologues, astronomes, enfin tout était un peu lié dans la science très ancienne. Elle est une femme, elle écrit, elle est chargée de surveiller les astres, de donner la succession des déplacements des planètes pour dire quand on va pouvoir commencer. Enfin, elle travaille avec le bureau de l'astronomie, si vous voulez. Et puis, elle est censée tenir, comme le faisait son père et tous ses ancêtres, les chroniques de la cour, donc à l'époque de la dynastie des Han. Et donc, c'est une personne extrêmement savante, extrêmement distinguée. Et voilà que tout à coup, ayant marié ses filles, elle se rend compte que ces pauvres filles ont beaucoup d'ennuis. Donc elle leur donne des conseils qui sont des conseils pour nous absolument insupportables. Et elle leur ordonne la soumission aux hommes parce que, dit-elle, c'est la seule solution pour que leur vie ne devienne pas un enfer. Donc vous voyez comment, depuis Foura, 1000 ans après ou 1100 ans après, la condition des femmes ne semble pas s'être tellement améliorée. Je vous remercie.